La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Apollon et Daphné. Le frère de Diane ne fut pas placé par Jupiter dans un rang moins élevé que sa sœur. Le front entouré de rayons éblouissants, il fut chargé de diriger le char du soleil et de conduire dans les plaines de l'air quatre beaux chevaux qui chaque jour recommençaient leur course sans en être jamais fatigués. Une jeune déesse couronnée de roses et nommée l'Aurore ouvrait le matin les portes de l'Orient, où était situé le palais lumineux du soleil. Le soir, le dieu et son équipage allaient se reposer dans le palais de Tétis, situé à l'occident du monde, tandis que la nuit, sombre divinité, portant une couronne de pavots et des ailes de chauve-souris, étendait sur tout l'univers un long voile noir parsemé d'étoiles. Vous reconnaîtrez aisément dans ce tableau fabuleux le trajet que parcourt chaque jour sur l'horizon l'astre qui nous éclaire. Vous savez que l'Orient est le côté où le soleil se lève et où les nuages, dans les beaux jours, commencent à se colorer de cette teinte rougeâtre qui s'appelle l'aurore. Quant à l'Occident, vous n'ignorez pas que l'on nomme ainsi le point où le soleil disparaît à nos yeux. Les anciens, pour expliquer la disparition de cet astre à la fin du jour, supposa qu'il se plongeait dans la mer pour faire place aux ombres de la nuit et déguiser ainsi, sous d'ingénieuses fictions, les causes véritables des grands phénomènes de la nature. Apollon avait un fils nommé Esculape, qui passait pour l'inventeur de la médecine. Il avait consacré sa jeunesse à étudier les propriétés des plantes et des minéraux et réussissait à guérir le plus grand nombre des malades qui le consultaient. Pluton alla un jour trouver Jupiter et se plaignit que depuis qu'Esculape avait découvert la médecine, le nombre des morts que Mercure devait lui amener chaque jour était considérablement diminué. Le père des dieux, indigné que ce petit médecin osât s'opposer aux volontés du ciel et de l'enfer, le frappa de la foudre, et fit perdre ainsi un grand nombre de bonnes recettes qu'Esculape n'avait pas eu le temps d'enseigner à ses élèves. Mais Apollon, ayant appris le malheur de son fils, entra dans une fureur que rien ne put apaiser. Et descendant aussitôt dans les volcans de Lemnos, où travaillaient les cyclopes, il les perça de ses flèches pour les punir d'avoir fabriqué la foudre dont Esculape avait été frappé. Cependant, mes enfants, Vulcain n'entendant plus retentir les marteaux de ses ouvriers dans les forges de Lemnos, fut bientôt informé de la vengeance d'Apollon, et montant vers l'Olympe, aussi vite que cela lui fut possible, boiteux comme il était, il porta plainte à Jupiter contre l'audacieux qui avait osé percer de ses traits les cyclopes, qu'il regardait comme ses plus habiles forgerons. Le père des dieux, ayant froncé le sourcil, ce qui fit trembler tout l'Olympe, manda devant lui l'imprudent Apollon, et après l'avoir sévèrement réprimandé, le chassa du ciel. Le dieu fut obligé par cet arrêt de descendre sur la terre où il se fit berger, comme Neptune s'était fait maçon. Pendant ce temps, comme la terre ne pouvait se passer du soleil, le char brillant de cet astre continua de parcourir comme d'habitude sa course journalière, sans que ses excellents chevaux s'écartassent d'un seul pas de la route qui leur était tracée. Apollon, devenu berger, ne tarda pas à s'accoutumer à sa disgrâce. Retiré dans les montagnes de la Thessalie, en Grèce, il prenait plaisir à garder un beau troupeau de brebis et à instruire les pâtres grossiers qu'il rencontrait dans les pâturages. Le dieu déchu était bon musicien. Il jouait de la flûte encore mieux que Mercure, l'endormeur d'Argus. Ce dieu lui-même, dans une de ses courses habituelles, est venu visiter son frère, reçut de lui en cadeau une baguette de coudrier, dont il fit son caducée, et au retour, il fit présent à Apollon d'une belle écaille de tortue, dans laquelle celui-ci plaça quatre cordes tendues, qui, sous ses doigts, rendaient les sons les plus mélodieux. Cet instrument reçut le nom de lyre, et lorsqu'on lui eut donné par la suite une forme plus élégante et un plus grand nombre de cordes, ce fut celui dont les Grecs se servirent pour accompagner les chants d'Homère et de leurs autres poètes. En peu de temps, les pâtres thessaliens, auparavant rudes et grossiers, ne furent plus reconnaissables. La plupart d'entre eux étaient devenus musiciens à l'exemple d'Apollon, et chaque soir, le dieu s'amusait à faire danser sur le gazon, au son de sa flûte ou de sa lyre, les jeunes bergères du voisinage qui se rassemblaient pour l'entendre. De toutes les nymphes du mont Ossa, où Apollon menait souvent paître ses brebis, il n'y en avait pas de plus belle et de plus aimable que Daphné, fille du fleuve Péné, dont les eaux fertilisaient les riches campagnes de la Thessalie. Apollon l'avait souvent rencontrée dans les prairies, conduisant elle-même un joli troupeau de brebis plus blanches que la neige. Il aurait bien voulu lier conversation avec elles pendant que leurs agneaux paissaient tranquillement sous la garde de leur chien fidèle. Mais Daphné savait qu'une jeune fille bien élevée ne doit pas faire la conversation avec un jeune homme qu'elle ne connaît pas. D'ailleurs, elle était, je crois, une des nymphes de Diane, et sa maîtresse lui avait fait promettre de ne jamais prendre un mari. Aussi évita-t-elle pendant bien longtemps la rencontre d'Apollon, et du plus loin qu'elle entendait sa flûte, elle se cachait dans les bosquets, les plus écartés, où elle savait bien que ce berger n'oserait pas la suivre. Un jour, pourtant, le dieu, l'ayant rencontré au détour d'un bois, se mit à lui parler d'une voix si touchante que Daphné eut bien envie de s'arrêter un moment à l'écouter. Mais se rappelant aussitôt que Zola lui était défendu, elle se mit à courir de toutes ses forces pour éviter ce jeune berger, dont le langage l'intéressait malgré elle, car Apollon, avant son exil, passait pour le plus spirituel des dieux de l'Olympe. Cette fois, le dieu entreprit de la suivre, et quoique Daphné fût presque aussi légère que les biches qu'elle perçait quelquefois de ses traits dans les chasses de Diane, il était près de l'atteindre lorsque la jeune nymphe, arrivant sur les bords du Péné, s'écria d'une voix lamentable, en tendant les bras vers le fleuve. « Ô mon père, ne viendras-tu pas au secours de ta fille ?» Comme elle achevait ces paroles, elle sentit tout à coup ses pieds se fixer à la terre et ses bras qu'elle tenait élevés se roidirent. Ses doigts s'allongèrent en branches flexibles garnies d'un beau feuillage vert et tout son corps se couvrit d'une légère écorce. Daphné avait été changée en laurier. Apollon ne la rejoignit que pour être témoin de cette métamorphose. Pénétré de douleur, il cueillit quelques feuilles de ces bels arbres dont le feuillage est éternel, et en forma une couronne qu'il posa sur sa tête. Depuis ce temps, le laurier lui fut consacré, et le dieu ordonna que désormais une couronne semblable serait la récompense des grands poètes et des grands guerriers. Le dieu banni, pendant son séjour sur la terre, ne fut point heureux dans ses affections. Le chasseur, Cyparis, qu'il avait préféré à tous ses autres compagnons, ayant eu un jour par mégarde une jolie petite biche qu'il avait élevée, en éprouva un si cuisant regret. Il supplia les dieux de lui ôter la vie. Apollon, le voyant se consumer de chagrin, le changea en cyprès, qui depuis ce temps fut regardé comme l'arbre du deuil. C'est pour cela que cette plante funèbre ne se rencontre guère que sur les tombeaux, où sa présence est un signe de tristesse et de regret. Un jeune berger nommé Hyacinthe, dont l'amitié semblait devoir consoler Apollon de la perte de Cyparis, n'eut pas un sort plus prospère que cet infortuné chasseur. Un jour, que le dieu banni, oubliant les soucis de l'exil, s'amusait avec Hyacinthe au jeu du palais, qui consistait à lancer avec adresse de pesants disques de plomb, Apollon fut assez malheureux pour atteindre au front son cher compagnon, qui tombant inanimé dans ses bras fut bientôt porte du tombeau. En vain, le dieu lui prodigue les noms les plus tendres. En vain, il essuie d'une main tremblante le sang qui coule à flot de sa blessure. Rien ne peut le rappeler à la vie, et le pauvre Hyacinthe expire sous ses yeux. Apollon, inconsolable d'un malheur dont il était la cause involontaire, voulut que le souvenir de son ami devint éternel comme sa douleur. Et il donna le nom d'Hyacinthe à une belle fleur qui naquit à l'instant même du sang de ce jeune infortuné, fleur triste et pâle comme celui dont elle consacre la mémoire. Pendant ce temps, mes enfants, les dieux qui étaient devenus tout soucieux depuis l'exil d'Apollon conjurèrent Jupiter de le rappeler dans l'Olympe où son absence faisait un vide immense. Jupin, qui regrettait aussi son fils, se rendit sans peine à leur prière, et cet aimable dieu reprit parmi les immortels sa place qu'aucun autre n'aurait pu remplir. Esculape fut également appelée à l'immortalité. Dans un temple que lui élevèrent les habitants de l'île de Kos, l'une des îles de l'archipel grec, les malades avaient coutume d'écrire sur les murailles les remèdes au moyen desquels ils avaient été guéris ou soulagés de leurs maux. Ce fut pendant plusieurs siècles la seule école où les médecins de la Grèce, sans en excepter même le grand Hippocrate, vinrent étudier cet art si précieux à l'humanité.